Alors, ce matin, je veux partager avec vous un texte, ou plutôt une pensée dans la parole, qui nous ramène à une base, mais qui est ce qui est nécessaire. Et trop souvent, on a la tendance de s'éloigner de cette base. Trop souvent, avec simplicité, ce matin, je veux partager des textes que vous connaissez bien à travers la parole, mais qui veut nous ramener dans une pensée d'une considération à l'intérieur, ou plutôt de sonder nos cœurs à l'intérieur de nos vies, et de s'arrêter. Et le titre que j'aimerais donner ce matin, c'est « Aimer sans mesure ». Aimer sans mesure. Des fois, à l'intérieur de nos vies, on doit se poser la question, est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée? Est-ce que Dieu est celui qui est le centre? Est-ce que je fais les choses par amour pour le Seigneur? Est-ce que je fais les choses par amour pour Dieu? Il y a un texte dans Romains qui dit, Romains 8, verset 35, ça dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Et là, il mentionne certaines choses qui pourraient nous amener dans une dimension d'être séparés de notre amour, de cet amour du Seigneur. Bien sûr, la dimension, c'est que rien ne peut nous séparer en ce qui concerne de ce que Dieu nous aime, nous, à l'intérieur de nos vies, que Dieu nous aime profondément, et rien ne pourra nous séparer, alléluia, de l'amour du Seigneur dans nos vies. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui pourrait séparer, alléluia, qui pourrait mettre une entrave entre moi et Dieu en ce qui concerne mon amour à moi envers le Seigneur, de ce qui soit le centre et ce qui soit le premier. Bien sûr, on connaît tous ce texte dans Marc, chapitre 10, le verset 17. Alors que Jésus s'adresse au jeune homme riche, et que ce jeune homme vient et demande au Seigneur à ce moment-là. Ce texte dit que Jésus, comme Jésus se mettait en chemin, un homme, le texte dit qu'il a accouru, qu'il a couru vers le Seigneur, et alors qu'il s'est trouvé là, il s'est jeté à genoux devant lui, et lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et le texte nous mentionne, alléluia, qu'alors que ce jeune homme accomplissait plein de bonnes choses et faisait de plein de bonnes affaires, il semblait qu'il y avait une dimension, un sentiment à l'intérieur de son cœur, alléluia, qui faisait qu'il croyait qu'il n'avait pas à ce moment-là la vie éternelle. Et le Seigneur va mentionner certaines choses. Il dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements, et là, le Seigneur Jésus va citer certaines choses d'accomplissement, de commandement. Il dit, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses. Et le texte dit qu'il faisait cela depuis sa jeunesse. Depuis son enfance, cet homme est celui qui accomplissait, il semble, avec une certaine fidélité à cette direction-là que Jésus donne. Il acquiesce avec force et avec instance le fait qu'il faisait cela depuis un certain nombre de temps. Il dit, maître, je vais observer toutes ces choses dès ma jeunesse. Il accomplissait, il faisait les choses. Alléluia, à ce moment-là, et bien sûr, alors qu'il est en train de mentionner, il est en train de faire tout cela, et vous savez, c'est une bonne chose. Il y a un texte aussi dans l'Évangile de Jean 14, verset 21, ça dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Alors, il y avait une dimension d'amour par rapport à ce qu'il accomplissait. Il y avait probablement une dimension, je ne suis pas en train de dire que ce jeune homme n'aimait pas d'une certaine façon le Seigneur, mais alléluia, il n'aimait pas Dieu, ou plutôt Dieu n'était pas à la première place à l'intérieur de son cœur. On a besoin de vouloir, et bien sûr, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits de notre amour pour le Seigneur, nous amène à accomplir. Je vais vous dire ceci, je pense qu'il n'est pas facile ou on ne peut pas accomplir les commandements de Dieu, alléluia, sans nécessairement aimer Dieu. Mais il est possible, en même temps, d'accomplir des commandements sans aimer Dieu de tout notre cœur. De le faire par religiosité, de le faire parce qu'on a appris quelque chose depuis notre enfance. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis ce sont des bonnes personnes, ils accomplissent de bonnes choses. Ce sont des gens même qui vont mettre certains commandements de la parole de Dieu en pratique, mais qui pourtant ne le font pas dans un sens où ils aiment Dieu de tout leur cœur. Et là, le Seigneur Jésus va amener cet homme à se poser la question de quelle place, alléluia, Jésus doit avoir à l'intérieur de sa vie. Et il y a une invitation, Jésus-Christ va désirer, le texte dit, Jésus l'ayant, verset 21, dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il y a un texte, ce texte-là amène vraiment une pensée qu'il y a un regard sur la vie de ce jeune homme-là, que Jésus s'arrête un instant, porte le regard, va vraiment une dimension d'un contact, de regard avec ce jeune homme-là. Et alors qu'il va être là, Jésus va lui dire, et le mot aimé ici, c'est le mot agapeo, qui veut dire l'aimer inconditionnellement. La parole que Jésus va lui dire n'est pas basée sur une sorte d'amour, c'est-à-dire sur une forme d'amour qui n'est pas juste. Mais le texte amène, et la parole que Jésus va lui dire est basée sur un amour qui est inconditionnel. Jésus va aimer cet homme-là et va lui poser cette question à ce moment-là. Alléluia, il va lui dire alors qu'il faisait dans Marc chapitre 10, verset 17, ça fait mention de cela. Et à ce moment-là, Jésus va l'amener à le suivre lui. Et dans le chapitre 10, verset 22, il est dit, Jésus va l'inviter, viens et suis-moi. Et ça dit qu'alors que Jésus va dire cela, ça dit, mais affligé de cette parole, alors que Jésus va lui dire, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Jésus ne voulait pas avoir ce jeune homme-là avec lui pour tout ce qu'il avait, pour toutes ses possessions. Jésus aurait pu dire, amène tout ton argent avec moi, avec toi, puis donne-moi-le, puis amène-moi-le, puis je vais m'en servir. Puis où Jésus aurait voulu avoir ce jeune homme-là pour ce qu'il possédait. Je vais vous dire que Jésus ne désire pas avoir cette communion d'abord et avant tout avec nous pour ce que nous possédons à l'intérieur de nos vies, mais plutôt, alléluia, pour qui on est à l'intérieur de notre propre vie. Il veut nous avoir chacun d'entre nous. Et alors qu'il est là, Jésus va lui dire de vendre, de laisser. Jésus touche quelque chose qui est plus important que tout. Il veut amener ce jeune homme-là dans la dimension d'aimer Dieu. Alléluia, plutôt de l'aimer pour avoir cette vie éternelle, ça veut dire qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Et se dit à ce moment-là, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais vous dire que la dimension dans ce texte-là, Jésus n'adresse pas dans la dimension de l'argent en elle-même, mais de la place que la chose prend à l'intérieur de la vie, du cœur de la personne. Et ce que le Seigneur veut adresser à l'intérieur de nos vies, ce n'est pas nécessairement la chose de la possession en elle-même, mais plutôt de quelle place cette chose-là prend à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Souvent, il y a la pensée qui me revient à l'intérieur de mon esprit, qui lorsque Jésus va dire aux deux sœurs de Lazare, va dire à une, « Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais l'autre a choisi la bonne part. » Souvent, ce qu'on s'inquiète, c'est davantage des choses de la terre, des choses qui nous entourent. Et bien sûr que ça peut nous inquiéter. Bien sûr que ça va nous faire vivre des choses. Mais ce que l'on doit chercher d'abord et avant tout, c'est le royaume de Dieu. Et le texte où Jésus s'adresse dans le cœur et dans la vie de ce jeune homme-là, ce n'est pas ses richesses en elles-mêmes, mais de la place que ça prend à l'intérieur dans la vie de ce jeune homme-là. Et des fois, c'est l'argent, des fois, c'est autre chose, des fois, c'est des biens, des fois, c'est des personnes, des fois, c'est des situations. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Le problème dans le texte, c'est pas d'avoir un certain ou de pouvoir avoir du plaisir, mais de la place que le plaisir prend en ce qui concerne ou de ce que c'est devant le Seigneur. Et à travers ça, le texte dit que ce jeune homme a choisi de refuser l'invitation. Et lorsque le texte dit, alléluia, les disciples, lorsque Jésus va mentionner cela, les disciples furent encore plus étonnés, verset 26, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. savez, on regarde et on mentionne souvent la possibilité de Dieu dans l'accomplissement de ce qu'on veut qu'il fasse à l'intérieur de nos vies. D'abord et avant tout, dans la dimension dont ce texte parle, de ce que Dieu, tout est possible, c'est l'idée du salut. C'est l'idée de la transformation. Ici, Jésus, un instant, j'aimerais juste nous faire réfléchir. Ici, Jésus, un instant, pourrait être en train de dire que dans la vie de ce jeune homme-là, Dieu, alors que lui, il semblait pas vouloir, je vous dirais ceci, je dis pas vouloir. Des fois, il y a des incapacités, mais il y a le non-vouloir. Dieu peut faire toute chose qui nous est incapable. Mais Dieu ne changera pas ce que l'on veut pas. Si ce jeune homme-là, un instant, serait arrêté vers Jésus et dire, « Jésus, tu me demandes quelque chose de tellement qui m'est incapable, mais j'aimerais te dire oui, j'aimerais que tu l'accomplisses, j'aimerais que tu me rendes capable. » Est-ce que vous pensez un instant que Jésus aurait pu le rendre capable? Je pense que ce que Jésus a amené Pierre à faire, est-ce que c'était facile pour Pierre de laisser là ses filets, puis d'aller, puis de suivre Jésus? La réponse est non. Est-ce que c'était facile pour Isaïe, dans Isaïe, lorsque Jésus va dire « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi » de dire que Isaïe va dire « Me voici, envoie-moi ». La réalité, c'est que ces hommes ont vécu les mêmes dimensions que vous et moi peuvent vivre à l'intérieur de leur vie. C'est à la différence que ces hommes ont donné la possibilité à Dieu de changer leur cœur. Et si le texte de Jésus est en train de dire « Pour ce jeune homme-là, c'était impossible », d'abandonner et de laisser. Mais s'il aurait voulu, j'aurais rendu la chose possible. Je l'aurais rendu capable d'abandonner ses richesses et ses trésors. Je l'aurais rendu capable, alléluia, de ce qu'il m'aime, le premier, que je sois le maître, qu'il me suive, que je pourvoie à sa vie. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, alléluia, en ce qui concerne Pierre. Alors que Jésus va être là, va être pris, va être à la veille de se faire crucifier. Pierre va renier Jésus. Mais pourtant, dans l'Évangile de Jean, dans le dernier chapitre, Jésus va adresser, alléluia, il va demander à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Jésus, alléluia, est en train d'adresser une dimension très importante dans la vie de Pierre. Et Pierre va dire, et dans le grec, bon, il y a le mot « agapé » et tout ça, et le mot « philéa ». Et Pierre prend le mot « philéa » alors que Jésus prend le mot « agapé ». Et Pierre prend conscience de ce qu'il n'a pas cet amour-là nécessairement. Mais Jésus va dire, alléluia, Pierre, paix mes brebis. Et à travers cette dimension-là, Jésus va parler de ce qu'un jour, il va être saint, qu'il va mourir pour Jésus-Christ. Et en fait, ce que le Seigneur est en train de dire, Pierre, je vais te rendre capable d'être prêt à mourir pour moi. Ce que tu n'as pas été capable de faire, Pierre, de ce que tu m'as renié, un jour, je vais te rendre capable de le faire. Si tu me donnes la possibilité, rien dans ta vie, Pierre, ne sera impossible que je puisse changer ça. La possibilité de Dieu ne s'accomplit pas seulement dans nos besoins de ce que Dieu pourvoit, de ce que Dieu guérisse, de ce que Dieu entreprenne dans la situation, que le Seigneur fasse quelque chose de particulier à travers une situation. Mais rien n'est impossible à Dieu pour changer ton cœur, changer ta vie, de nous rendre capables de l'aimer plus que tout. Et Jésus va dire, cela est impossible aux hommes. Le salut, ce n'est pas la possibilité par les œuvres. C'est impossible à l'être humain d'avoir le salut par ses œuvres, d'avoir le salut par ses accomplissements. Dieu ne nous aimera pas plus parce qu'on fait plus. Dieu nous aimera, alléluia, parce qu'il nous aime profondément dans sa personne même. Dieu nous aimera pas plus parce qu'on va accomplir encore meilleur les choses. Et dans le texte, alléluia, ça dit, mais c'est possible à Dieu. C'est pas possible que le salut, tu aies ce salut-là qui t'est donné. C'est pas possible que ça soit un salut que tu vas gagner par toutes tes capacités, tes possibilités humaines. Mais Jésus dit, mais c'est possible à moi de te pardonner. C'est possible que par moi, tu aies cette vie éternelle. C'est possible que par moi, tu aies, alléluia, ce changement. Je vais vous dire ceci ce matin, alléluia. Il est vrai et on a besoin de comprendre à l'intérieur de nos vies que cette, cette, cet amour-là en est une dans une dimension, alléluia, d'une relation qui est personnelle, d'une communion qui est personnelle, d'une relation d'intimité, de communion, de ce qu'on peut parler avec Dieu, de ce qu'on peut avoir une communion avec lui. Et le danger, c'est que la communion devienne une religion. Il est possible que la communion devienne une religion. Et il est possible que la religion nous amène plutôt de réaliser le besoin d'une relation, d'une transformation et d'une relation réelle avec le Seigneur. J'aimerais vous amener dans la prochaine diapositive, dans une différence. J'aurais pu en mettre plus, mais j'ai voulu en mettre quelques-unes. La différence entre une religion et une relation. La religion est dans une dimension de contrôle, de gérance. Ce jeune homme-là est celui, alléluia, qui a voulu continuer à gérer sa fortune, gérer les choses. Jésus lui a demandé d'abandonner entre ses mains. Et ce jeune homme-là a probablement, dans la continuité de sa vie, a continué à faire les bons commandements, à faire les bonnes choses. Je n'ai pas dans ma pensée l'impression que ce jeune homme-là, après la rencontre avec Jésus-Christ, a commencé à tuer, a commencé à voler, à dire des choses, toutes sortes d'affaires en ce qui concerne les gens. Probablement que ce jeune homme-là a continué à être un bon jeune homme qui accomplissait les commandements. Mais il a voulu continuer à contrôler, à gérer les choses. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, et peut-être je vais être tranchant dans ce que je vais dire ce matin. Mais si ta vie est toujours sous ton contrôle, je vais te dire que tu es probablement en train de vivre une religiosité. Et que le Seigneur, alléluia, veut nous amener à être de ceux qui vont être prêts à laisser et à remettre entre ses mains ta propre vie. Ta propre vie. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur, ce jeune homme-là, après, n'aurait pas été celui qui n'aurait pas accompli ou décidé certaines choses? Oui, mais pu contrôler comme il voulait le faire. Jésus adresse clairement sur ce qu'il contrôlait sa vie, sur ce qu'il gérait sa vie. Et on a besoin de réaliser que trop souvent, nos vies sont sous notre propre contrôle. On fait les choses, on accomplit les choses, on fait les affaires sans même être concerné de la direction de Dieu, de ce que Dieu veut faire. On accomplit les choses sans même se soucier. On prend des directions, des décisions importantes de nos vies sans se préoccuper de la propre volonté de Dieu à l'intérieur de nos vies. Puis qu'est-ce que Dieu en pense? Puis est-ce que c'est ce que Dieu veut à l'intérieur de nos vies? Alors que la relation nous amène à un abandon de sa vie entre les mains de Dieu, à être prêt à abandonner sa propre vie, se dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Ce que Jésus nous demande, ce que Dieu nous demande, c'est ce que Jésus lui-même a fait. Il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous savez, la beauté de la chose, ce que Jésus demande à ce jeune homme-là, c'est ce que Jésus lui-même va faire avec son propre Père. Ce que Jésus était en train de demander, de laisser, de vendre, de laisser ce qui était, Jésus va lui-même être prêt à abandonner sa vie entre les mains de Dieu, entre les mains de son Père. Vous savez, ceci, la Bible nous dit que c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, l'accomplissement de Jésus, alléluia, n'était pas de sa volonté, mais de la volonté de son Père. C'est d'ailleurs pour ça que dans le jardin de Gethsémané, Jésus va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Il est en train de dire dans ce texte-là, dans cette parole-là, qu'il était en train d'accomplir, non pas sa volonté à lui, mais la volonté de son propre Père. Il est en train de dire, alléluia, qu'il abandonne sa vie entre ses mains. Quand Jésus va être sur la croix, il va dire, entre tes mains, je remets, Père, mon esprit. Je veux vous dire que c'était fait bien avant. Jésus, à ce moment-là, va mourir, mais à ce moment-là, même avant, dans le jardin de Gethsémani, même avant, alléluia, il va dire que sa nourriture, c'est faire la volonté de son Père. Ce qui le nourrit, ce qui, alléluia, le fortifie, ce qui lui donne d'être capable d'aller jusqu'au bout. Et frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à laisser et à permettre à Dieu de prendre le contrôle de nos vies. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a permis à Dieu, lorsque Dieu lui a demandé de quitter Charan, il est quitté Charan. Lorsque Dieu lui a demandé, alléluia, d'offrir son fils, il a offert son fils. Et les hommes et les femmes dans la parole de Dieu qui ont gardé le contrôle, que ce soit Saül, que ce soit Judas, ça les a amenés, alléluia, à leur propre perdition. Ça les a amenés à tout perdre. Quelqu'un a dit un jour, alléluia, que ce que l'on aura perdu, c'est ce que l'on aura vraiment gardé. Mais ce que l'on aura remis entre les mains de Dieu, on le retrouvera comme un trésor dans le ciel pour l'éternité. Deuxième chose, la religion nous amènera dans l'accomplissement. Ce jeune homme-là l'a amené à faire les choses, à accomplir. Jésus n'est pas en train de dire que ce n'était pas bien de ce qu'il avait accompli, mais il dit, il y a une chose qui te manque. Il n'est pas en train de dire qu'il en manque 100, 1000, mais ce qui est à la base même, c'est le fait, alléluia, d'aimer Dieu plus que tout. C'est bien de faire et d'accomplir, mais la religion nous amène dans une dimension de seulement faire, alors que la relation nous amène à être. Alors, la religion nous amène à faire les choses pour avoir la faveur de Dieu, pour avoir la faveur des gens, pour penser, alléluia, qu'on va avoir la vie éternelle, pour penser que notre vie va être correcte. Je vais vous dire ceci, ceux qui vont se retrouver avec le Seigneur pour l'éternité ne seront pas les bonnes personnes. Le ciel ne sera pas rempli de bonnes personnes, mais va être rempli de fils et de filles de Dieu. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on sera pas, qu'il n'y aura pas des bonnes personnes? Mais d'abord et avant tout, ce sont des gens qui vont être pardonnés, lavés par le sang de Jésus. Et c'est ce que Dieu nous offre. C'est une grâce. C'est une bénédiction d'être des fils et des filles de Dieu. C'est offert à chaque personne. C'était offert au larron sur la croix. De devenir et d'être, non pas accomplir, mais de devenir des enfants de Dieu. De devenir, de simplement accepter le fait de ce que Jésus a accompli à la croix. Et bien sûr, on peut faire de bonnes œuvres, on peut accomplir de bonnes choses. Je pense que Dieu nous appelle à être des bonnes personnes. Mais nous appelle à être des fils et des filles de Dieu qui vont être des bonnes personnes. D'être où Dieu veut faire une œuvre à l'intérieur de nos cœurs. Quand Jésus, alléluia, est celui qui a appelé ses disciples, et ce jeune homme-là, il l'a appelé à être, alléluia, un fils de Dieu, à être un disciple, un de ses disciples. Quel, y a-tu, juste un instant, réfléchissons un instant, y a-tu une plus grande richesse, une plus grande bénédiction que de cette invitation-là que Jésus fait à ce jeune homme, à ce moment-là, de devenir un de ses disciples? C'est la plus grande richesse. Il y a plein de gens qui vont être autour de Jésus. Il y a plein de gens que Jésus va guérir. Il y a plein de gens que Dieu va faire une action à l'intérieur de leur vie. Mais il n'y a pas tant de gens que ça dans les évangiles où Jésus a invité ses hommes à devenir et à le suivre comme ses disciples. Vous savez ceci, Jésus a invité cet homme à faire partie du carré d'as, c'est-à-dire de l'équipe, de ce qui est là, de ce qui est important, de son entourage, de cette proximité. Et je vais vous dire, la relation nous invite à faire partie de cette proximité, à faire partie, alléluia, de cette communion, de cette relation. Jésus, alléluia, ne veut pas avoir, ou plutôt le désir du Seigneur, ce n'est pas de faire ou d'avoir des gens simplement qui vont faire les choses, mais Jésus va avoir des gens qui vont être avec lui. Troisièmement, vivre pour soi. On va faire les choses que pour nous-mêmes. Faire et accomplir. On va être davantage dans une dimension de ce que Dieu va devenir notre serviteur à l'intérieur de nos vies. où on va vouloir davantage que Dieu fasse. Seigneur, bénis-nous, que ma vie aille bien, que je sois en bonne santé, que mes finances soient correctes, que Dieu ne mouille pas demain parce que je veux faire une activité, puis le pasteur part en vacances. Seigneur, on ne veut pas qu'il arrive telle et telle affaire. Seigneur, parce que telle et telle chose, puis on est pris, puis on est là à demander. Mais en fait, la réalité, c'est que Dieu est devenu notre serviteur. La religion, alléluia, amène ou abaisse Dieu à la servitude, alors qu'à la relation, alléluia, amène Dieu à être notre Père. Celui, alléluia, qui est le maître de toutes choses, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nos vies, celui, alléluia, qui accomplit les choses à l'intérieur de nos vies. Je me rappelle lorsque mon père était atteint du cancer et qu'il était... Les médecins avaient dit certaines choses au niveau de sa santé, en fait, qui était pour mourir. Je me rappelle qu'il y a eu une colère à l'intérieur de mon cœur et j'ai commencé à prier, à demander à Dieu que Dieu le guérisse. Et la colère est entrée dans mon cœur face à ça. Parce que je disais, Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, c'est ce que je veux. Je me rappelle même d'avoir sorti alors que le médecin donne une nouvelle, d'avoir sorti de la chambre d'hôpital avec le bras levé et dire, Seigneur, si tu viens le chercher, c'est contre moi qui te bats. Jusqu'au temps, alléluia, où mon cœur a compris quelque chose. Que mon père, c'était mon père. Mais que pour Dieu, alléluia, c'était son fils. Et il était celui, alléluia, qui avait l'autorité sur la vie de cet homme. Qu'il avait l'autorité sur la vie de cet homme. Que, alléluia, cet homme-là lui appartenait. C'était son choix dans sa vie. Mon père avait donné sa vie au Seigneur, avait invité Dieu, pas juste à être celui qui le bénisse, mais celui qui contrôle et qui dirige sa vie. Et que je n'avais pas cette autorité-là. Et que, bien sûr, Dieu pouvait le guérir, mais que Dieu, alléluia, avait une volonté. Que le Seigneur, alléluia, voulait accomplir une direction. On a besoin de ce que Dieu va davantage se soucier. Bien sûr, va se soucier de nous. Mais alléluia, on a besoin de vivre pour le Créateur. Vie sur les relations des autres. Révélation des autres. Ce que les autres nous parlent du Seigneur. De ce que les autres nous parlent d'eux. Mais on a besoin de vouloir et de vivre cette communion-là, cette relation-là avec le Seigneur. Cette communion avec Dieu. Non pas seulement de ce que les autres disent, pas juste de ce que le pasteur va prêcher ou quelqu'un va prêcher à l'église le dimanche matin, ou encore va dire quelque chose au groupe Connexion, ou encore de ce que le Seigneur, de quelqu'un va témoigner de quelque chose de ce qui s'est passé dans sa vie, mais que Dieu va avoir parlé à son cœur, parce qu'il va vivre son intimité sur une relation qui est là. La relation, c'est, ça lui donne, alléluia, non pas de, mais de vivre sa révélation, sa relation, sa communion, d'entendre Dieu parler à son cœur. Vous savez ceci, il y a quelqu'un qui peut dire à mon épouse que je l'aime. Quelqu'un peut aller voir, je peux demander à quelqu'un d'aller et de dire que Dieu, que pas Dieu, c'est vrai que Dieu l'aime, là, mais aussi que je l'aime. Mais des fois, elle a besoin de l'entendre de ma bouche. J'aime ça entendre par la voix de quelqu'un d'autre que Dieu m'aime. Mais je veux l'entendre de la bouche de Dieu, alléluia. Je ne veux pas seulement entendre de la bouche des autres que Dieu est fidèle. Je veux entendre de la bouche de Dieu qu'il est fidèle envers ma vie. Je ne veux pas seulement entendre, alléluia, que la parole de Dieu est déclarée pour quelqu'un à l'intérieur. Bien sûr, c'est une bénédiction de faire. C'est une bénédiction, alléluia, de le faire. Vous savez, des fois, il y a un prophète qui vient à l'église, qui va donner une parole de la part de Dieu à quelqu'un. C'est extraordinaire. C'est bénissant. Mais alléluia, lorsque Dieu parle à mon temps, dans mon cœur, dans mon culte personnel, alléluia, c'est le même Dieu qui s'adresse à moi. C'est le même Dieu qui parle à mon cœur. C'est le même Dieu, alléluia, qui fait une œuvre à l'intérieur de ma vie. C'est ce Dieu-là, alléluia, par son Esprit Saint, qui adresse à ma vie, qui adresse à mon cœur, qui m'encourage, qui me fortifie, qui me reprend, qui me corrige, alléluia, qui m'amène plus loin, qui me donne de comprendre des choses en ce qui concerne sa personne. On a besoin d'entendre, alléluia, cette révélation de la part de Dieu. La religion amène captif, nous amène à être pris dans un carcan, dans quelque chose. Et les pharisiens, c'est ce dans quoi ils étaient pris à ce moment-là. Alors que la relation nous amène la liberté. de vivre cette communion, cette relation, alléluia, avec Dieu. Cette communion-là avec le Seigneur, cette liberté ne nous donne pas de faire tout ce qu'on voudrait faire, mais nous donne de faire ce que Dieu nous voudrait qu'on fasse. Il nous rend libres à l'intérieur de nos cœurs. La religion enlève toute la vie. Ça n'est que la lettre. Alléluia, la relation nous donne de recevoir la vie de Dieu à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies. La religion nous amène à la condamnation. Ce jeune homme-là, alléluia, a refusé cette vie éternelle. Comprenez bien ceci, là. J'aimerais ce matin juste vous amener cette pensée. Ce jeune homme-là n'a pas refusé seulement d'aller avec Jésus-Christ à Nazareth ou ailleurs, là. Il n'a pas refusé un voyage. Il a refusé la vie éternelle parce que sa question, c'était « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Il n'a pas refusé une marche avec Jésus jusqu'à Jérusalem ou à quelque part d'autre. Il a refusé, alléluia, la vie éternelle. Condamnation. Sans vie. Alors qu'avec Dieu, alléluia, il y a le pardon. Ce que Jésus nous offre, c'est d'être pardonné. La religion nous condamne. Elle nous rend coupables. Parce que la réalité, on ne peut pas faire tout parfaitement, tous les commandements puis de tout ce qu'on devrait faire. Mais le pardon de Dieu nous donne la possibilité de recevoir cette vie-là, par Jésus-Christ, d'être pardonné, d'être changé, d'être transformé. La religion nous amène à être pardonné par des œuvres, parce qu'on accomplit. Alors que la relation nous donne d'être pardonné par grâce. Jésus aurait pu prendre cet homme-là qui était le larron sur la croix, un instant, un moment, Jésus offre le pardon à cet homme. Alors que cet homme avait toute sa vie complète dans la méchanceté, alléluia, puis dans ce qui était contre Dieu. Mais un instant, sa vie a été pardonnée. Quelle grâce d'être pardonné. Et dernièrement, fait des œuvres pour se mériter, alléluia, pour se mériter le salut, se mériter la faveur de Dieu, se mériter les bénédictions de Dieu. Ici, j'amène la pensée de mériter les faveurs de Dieu. Bien sûr, on doit agir avec fidélité. Bien sûr, on doit faire, on doit accomplir, on veut mettre en accord, on doit vouloir obéir à la parole. Bien sûr. Mais alléluia, ce qui est la base pour laquelle on le fait, ce n'est pas pour mériter la faveur de Dieu, alors que l'autre fait des œuvres parce qu'il fait, parce qu'il a la faveur de Dieu, parce qu'il est sauvé, parce qu'il a été pardonné, parce qu'il reconnaît que déjà, il a la faveur de Dieu à l'intérieur de sa vie et qu'on a besoin de cela à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Saisir, alléluia, cette faveur de Dieu. Saisir son amour. Et on ne fait pas les choses pour avoir sa faveur. Mais, alléluia, nous avons la faveur de Dieu dans cette relation-là, parce que l'on l'aime de tout notre cœur. Ce matin, j'aurais pu parler de cette église d'Éphèse, j'en parlerai dans un autre moment donné. Mais de demeurer, de continuer à voir, de demeurer de cet amour-là qui est réel à l'intérieur de nos vies, de nos cœurs, et de savoir qu'il est celui, alléluia, qui prend la place à l'intérieur de nos vies. Ce que Dieu nous appelle, ce n'est pas vivre une religion, mais c'est de vivre une relation personnelle et intime avec lui. En fait, j'aurais pu dire, en ce qui concerne l'Église d'Éphèse, je vous ai juste partagé mon premier point un matin. Puis je suis sûr que vous ne voulez pas que j'aille au deuxième. Alors, mais j'aurais pu vous parler de l'Église d'Éphèse, une Église qui a commencé dans la gloire, mais qui dans l'Apocalypse, alors qu'elle est impeccable sur toutes ses œuvres, Jésus va lui dire, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné cet amour-là que tu avais pour moi. Les années, le temps ont changé les raisons pour lesquelles tu faisais les choses, les raisons pour lesquelles tu accomplissais les choses. » On va chanter le troisième chant de ce matin à travers pour la Sainte-Seine ce matin. juste commencé à jouer doucement. Simon. Et là, juste réalisé, alléluia, et mon questionnement ou ma pensée ce matin, c'est où t'es rendu mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Quelle est la raison pour laquelle? Quelle est la raison pour laquelle tu fais les choses aujourd'hui? Quelle est la raison pour laquelle on est ici ce matin? Quelle est la raison pour laquelle on accomplit la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est pour la faveur de Dieu? Est-ce qu'on est dans une certaine religiosité? On est là, mais on est là parce qu'on a contrôlé tout. Ou est-ce qu'on est là parce qu'on veut marcher avec le Seigneur, parce qu'on veut lui plaire, l'aimer plus que tout? Parce qu'il est le premier dans notre vie. Quel est, si tu viendrais vers Jésus, tu dirais au Seigneur, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus adresserait dans ta vie aujourd'hui? Vous savez, quand Jésus va dire à ce jeune homme, les commandements, je pense que Jésus savait, alléluia, que ce jeune homme-là était un bon jeune homme. Que le jeune homme qui se dressait devant lui, c'était un jeune homme probablement généreux de ce qu'il possédait. Il faisait les bonnes choses, faisait pas de mal, tuait personne, parlait pas de faux témoignages. Et Jésus voulait adresser quelque chose qui l'empêchait d'aller plus loin. De pas seulement vivre la loi, mais de vivre la communion, alléluia. Que vivons-nous, frères et sœurs, ce matin? Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que tu vis une relation ou une religion? Quelle est la mesure avec laquelle tu aimes le Seigneur? Quelle est la mesure? La réalité, c'est que ce jeune homme-là avait une mesure, et sa mesure n'était pas aussi loin que ce que Jésus voulait pour la vie de ce jeune homme. Sans mesure. Aimer sans mesure. Vous savez, ce matin, c'est une grâce, on s'apprête à prendre la Sainte-Cène ensemble. On ne la prend pas parce qu'on mérite les choses. On la prend parce qu'on vit une relation. On l'apprend. La religion ne nous donne pas de venir à cette table-là aujourd'hui. La religion ne me donne pas la possibilité de prendre la coupe et le pain aujourd'hui. Pourtant, c'est ce que la société, c'est ce que les âges passés nous ont appris. Que la religiosité nous donne le droit de prendre la communion. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Ce qui nous donne accès à la possibilité... Alléluia, c'est la relation, c'est la communion, c'est l'intimité qui va nous changer, qui va nous transformer et qui nous donne de vivre avec lui aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais inviter les préposés à accueillir les dîmes, les offrandes, mais la Sainte-Cène, ce matin, à s'approcher. Et ce matin, on va prendre le repas ensemble. Et j'aimerais nous encourager à pas par nos mérites, pas par nos capacités, pas par nos possibilités, mais parce qu'on veut dire Jésus, alléluia. Je veux te suivre. Je veux juste être à ta suite, Seigneur. Puis être à ta suite comme un frère a prié ce matin dans la louange. Seigneur, on n'y arrive pas tout. Mais je veux croire que, Seigneur, que ce dans quoi je ne suis pas capable. Je crois que t'es possible, que c'est possible que tu me rendes capable. Que Seigneur, c'est possible. Que Dieu, j'ai de la difficulté, j'arrive pas à faire toute chose. Mais Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui va rendre la chose possible, qui va me rendre capable de le faire. Seigneur, ce matin, on veut te prier pour ce pain, pour cette coupe, qui représente cette nouvelle alliance en ton sang. La Bible nous dit. Et aujourd'hui, on veut prendre ce pain, cette coupe, hein, simplement en sondant nos cœurs et nos âmes. La Bible dit de ne pas faire cela à la légère. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, Seigneur. On ne veut pas le faire à la légère. On veut le faire, Seigneur, en prenant conscience de ce que tu nous appelles à t'aimer plus que tout. De ce que tu nous amènes à t'aimer plus que toute chose dans nos vies. Alors, Seigneur, bénis ce pain, bénis cette coupe. Et aujourd'hui, on veut te suivre, on veut marcher avec toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Et amen. On va chanter le chant. Gardez le pain, alléluia. Gardez la coupe. On va le prendre ensemble ce matin.